Bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'on regarde les chiffres sur le SBF 120, c'est 8% seulement des entreprises du SBF 120 qui sont dirigées par des femmes aujourd'hui. Et puis évidemment, tout le monde connaît les chiffres du CAC 40 où il n'y en a qu'une. Moi, j'ai entendu cette formule plusieurs fois, mais elle est très vraie en fait. Quand il n'y a pas de quotas, les entreprises trouvent des excuses. Quand il y a des quotas, elles trouvent des femmes. C'est Cécile Belliot qui parle, celle qui doit bientôt piloter le groupe Bell, vous savez, le Babybel, la vache qui rit. Elle était au micro d'On n'arrête pas l'écho en juin dernier. Au CAC 40, il y avait donc déjà une femme, la directrice générale d'Engie. Eh bien, en avril, il y en aura deux. On a eu la confirmation hier, Christelle Edeman sera la directrice générale d'Orange. Et alors là, attention, en juillet, on comptera trois grandes patronnes dans le CAC avec la DG de Veolia. Il va sans dire que tout cela sur le CV est à compétence égale face aux candidats masculins. Pour paraphraser Françoise Giroud, le temps n'est pas encore venu où à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Mais bon quand même, 3 femmes sur 40 bosses, tout cela ne secoue pas le capitalisme pensé par les hommes et structuré pour les hommes. Alors comment aider les femmes à prendre les commandes? Bien sûr, les quotas dans les conseils d'administration, pour les postes de direction et en France maintenant, c'est dans la loi. Mais il nous reste le problème de fond, toujours le même. Les femmes sont freinées en vol au moment où elles font les enfants dans leur carrière. Et là, que faire? Le dernier rapport sur la difficile conciliation vie privée-vie professionnelle, il date d'octobre. Il était notamment question d'un congé parental court, mais beaucoup mieux rémunéré. Et puis d'un service public de la petite enfance totalement repensé. Des propositions signées par un homme et par une femme. Elle s'appelle Christelle Edeman et c'est donc elle, la future patronne d'Orange.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le magazine de l'économie, comme tous les samedis, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Pour décrypter les bons chiffres de la semaine, et par exemple celui du marché du travail, le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, sera notre invité, Gilles Gâteau, interview vers 9h45. On zoomera aussi sur la situation des demandeurs d'emploi de longue durée. Pour eux, la situation elle ne s'améliore que très lentement, vous entendrez le reportage de Marion Ferrer. Madame Vie au boulot, bien sûr, est avec nous. Toutes vos interrogations sur la vie au boulot, sur le droit du travail. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Alors ce samedi, des questions sur le Covid au boulot.
Oui, mais le retour du Covid au boulot, un employeur peut-il interdire l'accès à la cantine d'un salarié qui a été contaminé? Doit-il rembourser les autotests? Ce sont les questions d'Augustin et de Mireille.
Je sens que la réponse va être particulièrement intéressante. On se retrouve juste avant le clap de fin du Magéco. Pour le lever de rideau, c'est bien sûr avec notre duo, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et Laurent Bigorne, le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Tout augmente, mais bon messieurs, tout augmente et alors le pouvoir d'achat. On voit aussi que l'économie est en plein rebond, tant mieux, mais et alors le partage des profits. Bref, ceux qui travaillent ont des attentes. Faut-il les satisfaire? Qui peut le faire? Que promettent exactement à 7h les candidats à la présidentielle? Eh bien tout cela, ce matin, c'est votre débat.
Le pouvoir d'achat s'installe dans cette campagne présidentielle. Évidemment, le gouvernement va annoncer un nouveau coup de pouce, on en parlait, pour le carburant, mais c'est ponctuel. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter les salaires?
En effet, les travailleurs, les salariés ont raison de se battre pour que leur travail soit mieux rémunéré.
Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale.
Parce que les dépenses incompressibles ont augmenté, mais disons les choses clairement, ce n'est pas l'État qui fixe les salaires. C'est bien pour ça que les organisations syndicales ont raison d'agir et de faire pression pour que le travail soit mieux payé.
Pour l'éducation nationale, nous revaloriserons les salaires.
Yannick Jadot.
D'une moyenne de 20%.
Député européen, Europe Écologie Les Verts.
En mettant le paquet sur les débutants et les milieux de carrière.
Candidat à l'élection présidentielle.
Plus généralement dans la fonction publique, on dégèlera le point d'indice. Et de la même façon, dans le secteur privé, nous augmenterons les salaires en commençant par le SMIC et tous les bas salaires.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet de pouvoir d'achat.
Rachida Dati.
Et l'essence, et le pain, et ceci. Et le pouvoir d'achat, quel est-il? C'est quoi le sujet?
Maire LR du 7e arrondissement de Paris.
C'est les salaires. Et aujourd'hui, le travail ne rémunère plus. On a dévalorisé le travail. on a caricaturé longtemps le travailler plus pour gagner plus. Mais aujourd'hui, on travaille plus pour finalement une pauvreté qui augmente. C'est sur ça qu'il faut qu'on enraye.
Si on veut augmenter le SMIC, ça se fera pas établissement par établissement, profession par profession. C'est le socle commun.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
Nous, nous demandons que le SMIC soit porté à 2000 euros. C'est ce qu'on appelle le salaire de base.
C'est la loi de l'offre et de la demande.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Qui a longtemps marché pour restreindre les salaires et qui aujourd'hui, parce que tout le monde veut embaucher.
Président du MEDEF.
Bah, ça met les salariés en quelque part en position de force. Moi, j'ai pas un bouton rouge ou un bouton vert pour appuyer, pour dire augmenter les salaires. Ça marche pas comme ça. J'ai pas besoin de les inciter à le faire pour une raison très simple. C'est que ils ont besoin d'embaucher et qu'ils ont des difficultés dans le recrutement. Donc la loi du marché fonctionne, la loi de l'offre et de la demande va fonctionner tout naturellement.
Nous non plus, on n'a pas les boutons, mais on a les explications. Alors Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Les salaires en France, il faut nous faire la photographie. On se demande s'il y a un problème conjoncturel ou structurel ?
Les deux, mon capitaine. Il y a un problème, bien évidemment, conjoncturel qui est dû à la hausse des prix du carburant, à la hausse des prix de l'énergie, mais à mon sens, c'est que l'ultime coup porté au pouvoir d'achat des ménages. Pourquoi est-ce que je dis ça ? On a nos revenus, pour la grande majorité des gens, c'est-à-dire les salaires, mais si votre salaire augmente de 10% et que les prix augmentent de 10%, vous n'avez pas gagné. Donc il faut non pas prendre en compte les revenus ou la progression des salaires ou pas, mais la progression des salaires compte tenu de l'inflation. Si vous avez obtenu 10% d'augmentation en quelques années, mais qu'entre-temps vous êtes resté célibataire ou vous avez deux enfants, vous voyez bien que ce n'est pas pareil. Donc il faut tenir compte du revenu avec l'inflation, en tenant compte de l'inflation, en tenant compte du nombre de personnes qu'il y a dans votre ménage. Et puis, on sait maintenant depuis quelques années qu'on a des dépenses contraintes. On peut pas passer à côté. Donc, ce qui est intéressant pour vraiment mesurer...
Alors, attendez, juste les dépenses contraintes, sont tous les abonnements, c'est la télévision...
Bah, il faut manger, il faut se loger...
Le loyer... Les abonnements numériques...
Il faut avoir un abonnement Internet, etc. etc. Ce qui est intéressant pour savoir vraiment ce qui se passe dans la vie des gens, c'est mesurer l'évolution, par exemple, sur les dernières années, c'est ce que j'ai regardé, du revenu compte tenu de l'inflation, du nombre de personnes et compte tenu des dépenses contraintes. D'accord ? Et quand vous regardez ça, j'ai été complètement scotché. Sur 2010-2020, ça a progressé de 0,7%. C'est-à-dire pratiquement rien du tout, moins de 1%. Pendant ce temps-là, l'inflation a été de 12%. Donc il y a un décalage énorme et le ressenti d'un pouvoir de vivre en baisse n'est pas qu'un ressenti, ça correspond vraiment à une réalité. C'est une situation, on le voit, 12% d'inflation sur 10 ans, ça veut dire en moyenne 1,2% d'inflation par an, c'est pas beaucoup. Donc ce problème, il tient au fait de la très très faible progression des revenus compte tenu, enfin du pouvoir d'achat, compte tenu du nombre de personnes dans la famille et des dépenses contraintes. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui. Et comme la hausse de la taxe carbone avait été le révélateur du mal-vivre d'une partie de la population française, l'inflation récente, elle reflète en fait une perte structurelle de pouvoir d'achat des ménages auquel le gouvernement répond aujourd'hui, mais en distribuant quelques miettes.
Laurent Bigogne, est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a une réalité de perte de pouvoir d'achat sur les
dix dernières années, c'est clair.
Alors, j'ai cherché des chiffres, comme Christian, et je suis tombé sur des chiffres donnés par Xavier Agot, qui est le président de l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui nous dit, au fond, la question du pouvoir d'achat, il faut la regarder dans la durée. Il nous dit, pendant le quinquennat de François Hollande, le pouvoir d'achat a très peu augmenté, de l'ordre en moyenne, et les moyennes ne sont que des moyennes, de 76% par an, du fait de la hausse de la pression fiscale, du chômage.
76% par an ?
76 euros par an.
Ah, pardon.
C'est moi ou c'est le masque ? C'est 76 euros. Sous Emmanuel Macron, il s'est amélioré de 334 euros. Pas pourcent, euros par an.
Ouais.
Avec une évolution globalement positive, une évolution donc des salaires globalement positive, du taux d'emploi et une tendance à la baisse de la fiscalité. Donc c'est là où on arrive à reprendre toutes les données parce que, comme vous dit Christian, il y a l'inflation, mais il y a aussi la fiscalité. Il ne faut pas oublier le taux d'emploi. Une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est qu'à 7, 8, parfois 9% de taux de chômage, on a des salaires qui vont être évidemment moins dynamiques que dans des pays qui sont autour de nous et qui sont au chômage qu'on appelle structurel, c'est-à-dire à 4,5, 5%. Eh bien nous, c'est vrai, on a des salaires qui ont été moins dynamiques parce qu'on a eu globalement une économie qui était moins dynamique. Donc ça, c'est le cadrage. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les prix de l'énergie ? Parce qu'on parle beaucoup en pourcents. Je pense qu'il faut aussi pouvoir parler en euros pour que ça parle à tout le monde. Le directeur général de l'INSEE nous a rappelé dans une interview cette semaine dans les Échos que entre novembre 2019 et novembre 2021, l'INSEE a évalué à nouveau en moyenne, et c'est là où il y a des disparités, mais en moyenne que la hausse de la facture énergétique pour les ménages, elle représente 30 euros par mois. Et c'est plus fort, évidemment, dans des milieux ruraux, par exemple, où on va devoir se déplacer plus, où il y a plus de chaudières au fioul, où on va monter jusqu'à 40-50 euros par mois. Donc, il y a des disparités, par exemple, entre campagne et ville-centre ou métropole. Donc, on a une photo qui est assez hétérogène, et on a effectivement un gouvernement qui, depuis le début du quinquennat, a cherché à jouer sur tous les leviers, la fiscalité, qui a cherché à jouer sur les baisses de charges, et qui se trouve confronté aujourd'hui à une réalité qui s'impose à tout le monde, hein, qui est tout le monde en Europe et dans le monde, qui est une reprise de l'inflation. Et la question, c'est de savoir stratégiquement comment on va y faire face.
Alors, oui, Christian ?
Non, c'est tout.
Vous n'avez pas la même analyse, hein, c'est pas le même tableau.
Si,
hein.
C'est le même tableau. Tout ce qu'a dit Laurent est juste, sauf qu'il faut prendre en compte l'inflation, les dépenses contraintes et le nombre de personnes. Et là,
et vous avez. Et la fiscalité. Et les charges sociales.
Et tout ce que vous voulez. Et l'INSEE calcule un revenu disponible des ménages par personne et compte tenu des dépenses contraintes. Et là, la photo, elle est là. 0,7% en 10 ans, c'est absolument incroyable. Moi, j'ai été très surpris de ce chiffre.
Alors, qui peut agir ? D'un côté, il y a l'État. Et en ce moment, on entend, en particulier du côté de Bercy, que l'État, ça y est, a suffisamment fait pour augmenter le pouvoir d'achat, et que c'est maintenant aux entreprises. Moi, j'aimerais bien vous emmener là, aux entreprises de faire. Est-ce que d'abord, il y a un problème de partage de la valeur ajoutée dans les entreprises ? C'est-à-dire, est-ce que les salariés sont lésés ? Ça, c'est ma première question. Christian Chavagnier.
Si vous regardez sur les 30 dernières années, le partage donc de la richesse produite par les entreprises, le partage de la valeur ajoutée, en gros, ça n'a pas beaucoup bougé. La part des salaires, la part des profits est restée à peu près les mêmes. Sauf que là, on touche complètement aux limites du raisonnement macroéconomique. Sur 2010-2019, le salaire moyen, ça a été plus 4,2%. On parlait des dirigeants du SBF 120, ça a été plus 32%. C'est complètement inégalitaire. Vous pouvez dire que la part des salaires dans la valeur ajoutée n'a pas bougé, que les salariés n'en ont pas eu moins, on n'en a pas eu plus, en tout cas, on n'en a pas eu moins. Mais ça ne vous dit rien sur qui a profité des augmentations de salaire, sur pourquoi c'est resté. En fait, c'est très inégalitaire. Dites-moi, par quel miracle, un PDG du SBF 120 a gagné 32% de productivité en 10 ans.
Donc vous dites inégalité entre les managers salariés et puis les salariés.
Si vous me dites, oh, attention, on ne peut pas augmenter les salaires parce que les salaires vont déjà plus vite que la productivité. Mais attendez, qui peut m'expliquer comment la productivité d'un PDG du FBS 120 a progressé de 32%? Ça veut dire que s'il y a des salaires qui vont plus vite que la productivité, c'est peut-être qu'il y a des hauts salaires rentiers qui ont su bénéficier, mais pour l'ensemble des salariés, ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce qu'on a un indice de ça, de cette inégalité à l'intérieur des entreprises? Parce qu'on n'a pas de stats vraiment sur les salaires à l'intérieur des entreprises. Vous avez le salaire médian, vous savez, 50% des gens gagnent moins, 50% des gens gagnent plus. Il est à 1900 euros. Et le salaire moyen, il est à 2004, un quart plus élevé. Et ça, quand le moyen est plus élevé que la médiane, ça veut dire qu'il y a une partie de haut salaire qui tire la moyenne vers le haut. C'est bien un indicateur qu'il y a des inégalités salariales fortes.
Mais on se souvient des trois tiers. Il y a le tiers pour les salariés, le tiers pour les actionnaires.
Christian a raison, il y a des différences salariales. Et on
Laurent
va pas.
Bigon.
Il n'y a pas de différences, il y a des fortes inégalités.
Il y a des différences salariales. J'ai encore le droit d'utiliser le mot que je veux. Moi, ça a des différences parce qu'elles sont justifiées. Tout le monde n'a pas le même rôle, la même responsabilité, le même talent dans l'entreprise. Et je pense qu'effectivement, on est dans une évolution qui dépasse d'ailleurs nos frontières, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des managers, dirigeants d'entreprise qui sont très bien payés, qui sont payés en rémunération, en capital, et de plus en plus en capital parce que c'est un risque qu'ils prennent.
Et c'est juste leur
maintenant,
talent. C'est juste dû à leur talent.
Oui, c'est le fruit de leur
talent. C'est là qu'on n'est pas d'accord.
Ce qu'on ne dit jamais. Et c'est quelque chose qui est trop peu connu et que vous venez de rappeler, Alexandra, c'est que depuis 1959, on a été le premier pays en Europe. Les autres pays, ils sont venus vers les années 80-90. On a organisé dans l'entreprise des dispositifs de partage de la valeur. Aujourd'hui, il y a 50% des salariés du secteur privé, je laisse l'agriculture de côté, mais 50% des salariés du secteur privé qui participent de ces dispositifs de partage de la valeur. Intéressement, participation, actionnariat salarié. C'est 20 milliards d'euros distribués à des salariés français en 2018. Et la France se distingue à la fois parce qu'elle a diffusé, institutionnalisé ces dispositifs et elle est même le seul pays d'Europe à les avoir rendus obligatoires.
Mais c'est surtout pour les grandes entreprises, Laurent.
C'est très inégalitaire.
La loi Pacte, depuis 2019, a proposé des dispositifs, et on va aller vers cela, à proposer des dispositifs pour que l'intéressement, la participation puisse se diffuser dans les ETI et les PME.
Mais
on est encore une fois en pointe en Europe.
Est-ce que les actionnaires sont particulièrement favorisés dans ce partage? Pour que les choses soient bien claires, vous avez parlé des salariés, vous avez parlé de l'intéressement, de la participation. Est-ce que l'un de vous deux peut me dire s'il y a eu une déformation en faveur des actionnaires dans ce partage, Christian? En rapidement, tout cas, si vous voulez.
Ouais, non, mais je pense qu'il faut, faire plus globalement la photo de d'où en sont les entreprises pour savoir qu'est-ce qu'elles font de leur richesse. Est-ce qu'elles accumulent plus de richesse qu'avant et qu'est-ce qu'elles en font? Et est-ce qu'elles privilégient les actionnaires? On a un taux de marge des entreprises, nous dit la Banque de France l'année dernière, en 2021, qui est à 34,5%. C'est le plus haut depuis qu'il y a des stats de l'INSEE en 1950. Donc là, vraiment, elles n'ont jamais été dans une situation aussi bonne. Le gouvernement a été plus que généreux dans son soutien au moment de la pandémie. Il fallait soutenir les entreprises, je ne remets pas ça en compte. Mais quand même, il y a eu ça. Et en fait, ça a été un élément supplémentaire de soutien aux entreprises pour une hausse tendancielle depuis 2013 du taux de marge. Donc les entreprises, depuis 2013, vont de mieux en mieux. Des entreprises en bonne santé, on ne va pas se plaindre. Et moi, je ne m'en plains pas. La question, c'est qu'est-ce qu'elles font de cette énergie? Pour répondre plus directement à votre question, entre 2013 et 2017, elles ont utilisé ces bons résultats pour faire relativement plus d'investissements que de distribution de dividendes. Depuis 2017, ça s'est retourné. En 2020, c'est la dernière année qu'on a grâce au stade de l'INSEE, l'ensemble des entreprises françaises, pas le CAC 40, pas le FBS 120, l'ensemble des entreprises françaises ont distribué une fois et demie plus de dividendes nets qu'elles n'ont réalisé d'investissements nets. Une fois et demie plus de dividendes que d'investissements. C'est quand même fou. Ça prépare pas l'avenir. Pour répondre à votre question, ça répond à un partage des richesses de plus en plus favorable aux actionnaires, de moins en moins à l'avenir des entreprises.
Alors, est-ce que vous voulez répondre à ça, Laurent? Sinon, moi, j'ai une question sur le coût du travail.
Oui, mais en un mot, il y a un taux de marge tendanciellement qui s'améliore, on ne va pas s'en plaindre, Christian a raison. Pourquoi il est de 34% en 2021? Parce qu'il y a une croissance de 7%. Donc il faut aussi voir qu'on est sur 2021 dans une année parfaitement exceptionnelle. Sur les dividendes, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quand on regarde la situation, quand on élargit la photo, quand on regarde l'Asie et les États-Unis, on est au-delà des niveaux de dividendes d'avant la crise. En Europe, on est revenu exactement là où on était au point de départ fin 2019.
Mais pas en France.
Comment ?
Mais pas en France. La France fait exception.
Il n'y a pas de déformation. Il n'y a pas de déformation.
Sauf que derrière États-Unis et Royaume-Uni, il y a la France, troisième puissance mondiale de distribution de dividendes, oui, alors qu'on n'est pas la troisième économie mondiale.
Oui, parce qu'on a de très grandes entreprises. Christian, vous savez très bien, on a une structure d'entreprise qui est tirée par ce qu'on appelle le CAC 40.
Allez,
donc on distribue
très
beaucoup.
Très inégalitaire.
Il nous reste une
très
grosse minute.
Au pays.
Christian, Laurent, on entend des choses dans la campagne. On entend globalement la gauche qui est pour la hausse du SMIC, et puis à droite, plutôt dans la baisse de cotisation appliquée au salaire. Ça pose la question du coût du travail. Est-ce que c'est encore un sujet aujourd'hui pour les entreprises? Est-ce qu'elles ont les moyens, ces entreprises, d'augmenter le coût du travail?
Je vous cite une étude de juin dernier publiée par la Banque de France. Sur la période la plus récente, donc 2016-2019, la France a amélioré sa performance à l'exportation vis-à-vis de l'Allemagne, de l'Italie, dans une moindre mesure, de l'Espagne, au bénéfice d'un rétablissement de la compétitivité prix et coût. Donc il n'y a pas de problème de coût du travail pour ce qui est de la compétitivité prix et coût. Le problème, ce que dit la Banque de France, c'est que la compétitivité hors coût, la qualité des produits, etc., les entrepreneurs français ne sont pas très bons. Et c'est là qu'est le problème aujourd'hui, c'est pas dans les salaires et le coût du travail.
Laurent Villegrain.
Oui, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi le déficit commercial français reste tanké à 70 milliards, quel que soit le prix de l'énergie, alors que les Italiens sont en excédent 70 milliards, les Allemands 200 milliards. Il y a donc, à mon avis, un sujet qui va au-delà, et je pense que nous avons un problème et de compétitivité des coûts qu'on fait avec les impôts de production en France, deux fois la moyenne européenne, six fois ce qui se fait en Allemagne.
Ne nous lancez pas sur le sujet.
Au contraire.
On le fera une autre fois, si vous voulez bien. Là, c'est la fin de votre débat.
Évidemment, deux fois plus de subventions à la production que dans le reste de l'Union européenne.
5,5 points d'impôts de production contre la moitié dans l'Union européenne et 0,6 en Allemagne. Tout est dit, je pense.
Non, Laurent, 0,7% de PIB de subvention dans l'Union européenne, 1,5 en France, le double. Donc, on donne et on prend.
Un quart de 6 à 7 entre la France et l'Allemagne sur les impôts de production.
Ça y est, vous avez dérivé sur les impôts de production.
Oui,
tant
lui,
pis.
Hein.
Donc le coût du travail, n'est pas un problème de l'avis de Christian Chavagneux. Le coût du travail
reste un énorme sujet de l'avis de Laurent Bigorgne.
Laurent Bigorgne et Christian Chavagneux, le débatteur du samedi. Allez, l'économie comme elle tourne ailleurs, Laurent, Christian. Ce matin, on va parler du A et du M de GAFAM.
Shares up nearly 5% after Apple reported a record quarter driven by iPhone strength.
Microsoft brings me to Microsoft. Azure, of course, its cloud services business. Growth last quarter 46%, which sounds pretty good.
Ah bah oui, ça a l'air plutôt bien ces résultats. En voilà des entreprises qui vont très très bien. Les GAFAM, on vient de l'entendre, Apple, le fabricant de l'iPhone, vient de vivre le meilleur trimestre de son histoire. Sa marge, c'est pas 34%, Christian, c'est plus de 43%. La pénurie de puces ne semble pas entraver Apple. Et pour Microsoft, donc le M de GAFAM, l'entreprise des années 90, qu'on trouvait moins flamboyante peut-être que les autres géants de la tech, eh bien là, c'est carrément la remontada. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour Alexandra.
Loïc, Microsoft a aussi annoncé, un peu comme Apple, des chiffres records cette semaine.
Oui, près de 52 milliards de dollars de chiffre d'affaires entre octobre et décembre, environ 19 milliards de bénéfices nets. Microsoft dépasse les attentes des marchés au dernier trimestre 2021. Azure en particulier, son service de cloud, a vu ses revenus bondir de 46% sur un an. La suite bureautique Office fonctionne bien, le réseau social LinkedIn également, on ne l'attendait pas à un tel niveau, mais le vétéran de l'informatique, deuxième capitalisation boursière tout de même, c'est incontestable à les moyens de ses ambitions. Et quelles ambitions avec ce projet de rachat annoncé tout récemment des studios de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Ce serait la plus importante opération de fusion-acquisition à avoir jamais eu lieu dans la tech.
Et Loïc, c'est de quoi amorcer un virage vers le fameux métaverse.
Eh oui, le métavers, ce monde virtuel dans lequel on évoluera, peut-être un jour présenté à l'envi comme le futur d'Internet. Alors le virage n'est pas aussi net que chez Facebook, dont la maison mère a été rebaptisée Meta, mais le patron de Microsoft l'a évoqué en présentant les résultats du groupe comme la prochaine vague de l'Internet. Et cette vague, eh bien l'entreprise compte la prendre, notamment grâce à Activision Blizzard. La guerre du métavers pourrait être déclarée. Facebook, Microsoft, en attendant bien sûr les autres, Apple ou Amazon, beaucoup plus discrets sur la question. Attention toutefois à ne pas attirer l'attention des régulateurs, plus concentrés jusque-là sur les autres GAFAM. Le gouvernement démocrate ne cache pas vouloir réguler les big tech. Facebook ainsi a dû abandonner sa monnaie virtuelle, le Diem, l'ex-Libra, annoncé en grande pompe il y a quelques années, mais qui suscitait une très forte opposition à Washington.
Loïc Loury, notre correspondant à New York. 9h35 sur France Inter. La crise est-elle effacée? Bon, vous allez me dire, on la voit très bien dans les comptes publics, le déficit, la dette. Certes, mais en face quand même deux chiffres très positifs cette semaine. D'abord, la croissance en 2021, 7%, ça c'est le rebond après la chute, un rebond très fort. Et ensuite, la baisse du chômage en 2021, moins 12,6%. Ça fait encore 3 300 000 personnes qui n'ont aucun travail. Mais oui, c'est le plus bas niveau depuis 2012. On va entrer ce matin dans le détail, en particulier pour les cadres avec notre invité, Gilles Gâteau, le patron de l'APEC. Mais d'abord, coup de projecteur sur ceux qui sortent du chômage et puis ceux qui n'y parviennent pas. Ce matin, notre reporter Marion Ferrer nous emmène dans une agence Pôle emploi à Orléans.
Bonjour.
Bienvenue à Orléans.
Merci. Bonjour.
Alors, je vous présente Nathalie Rome, qui est conseillère pour nous. Et puis...
Madame Elazar.
Madame Elazar.
D'accord, Elazar. Enchantée.
Donc j'ai 39 ans, maman de 3 enfants. J'ai été dans le domaine du commerce, donc j'ai fait une carrière chez Kiabi, donc une grande entreprise où j'ai pu évoluer, graver des échelons sur une durée de 17 années. Aujourd'hui, je me retrouve en reconversion professionnelle et j'aimerais aller sur le domaine médical, paramédical. Tout de suite après que j'ai eu ma rupture de mon contrat, donc je me suis inscrite sur le site Pôle emploi. J'ai pu avoir un conseiller une fois par mois sur une heure à peu près. Donc un échange très constructif pour justement mettre en avant mes qualités, mes valeurs, mes expériences professionnelles et qu'est-ce qu'on peut en faire.
Du coup, il y a une formation, j'imagine, on passe pas de la vente aux soins.
Exactement. Donc aujourd'hui, il y a une... Il y a un organisme qui va faire une prépa qui démarre la semaine prochaine, justement, pour ces métiers. Donc, j'ai pu avoir une place et j'en suis très reconnaissante parce que ça va m'ouvrir des portes, donc des nouvelles connaissances. Et je sais que c'est un début vers quelque chose qui prendra forme par la suite.
17 ans que chez Kiabi, un an sans travail, et voici Bouchra El-Hazar qui bifurque pleine d'espoir. Sa préparation au concours d'école d'infirmière démarre la semaine prochaine. C'est un secteur qui recrute. Bonne chance, Bouchra. En 2020, le Covid avait fait bondir le chômage. En 2021, le reflux est impressionnant. Près d'un demi-million de demandeurs d'emploi de moins. Et dans les bonnes nouvelles, il faut souligner le recul du chômage des jeunes. Ça, c'est une des faiblesses françaises. En revanche, tous âges confondus, ceux qui ne travaillent pas ou très peu depuis plus d'un an représentent toujours quasiment la moitié des inscrits à Pôle emploi. Ça fait 2 800 000 personnes. Le chômage de longue durée, c'est le point noir, la partie du problème la plus dure à attaquer. Vérification sur le terrain, on retourne à Orléans.
Je suis Nathalie Rome, conseillère à l'emploi à l'agence Nord-Béarn-Nord. J'ai un portefeuille de 200 personnes à peu près et c'est pratiquement la moitié en fait. Il y a vraiment tous les cas de figure. Il n'y a pas de cliché en fait. Tout le monde peut se retrouver dans cette situation, surtout avec la crise qu'on a vécue. Donc on prend les gens au cas par cas et on étudie. Il faut lever des freins souvent. C'est surtout en effet essayer de les remotiver, de les redynamiser. C'est surtout aussi la reprise de confiance en eux. Il y a eu la crise de Covid qui a mis des gens au chômage alors qu'ils ne connaissaient pas le chômage, qui s'est un peu prolongé. Et en fait, notre rôle, nous, ça a été justement de leur faire découvrir peut-être d'autres secteurs, parce qu'ils étaient sur un métier bien particulier, ils avaient du mal à imaginer passer sur un autre secteur d'emploi. Donc en fait, l'objectif, c'est aussi de leur faire découvrir les nouveaux secteurs qu'ils recrutent par des stages de découverte, des immersions. Ça, c'est hyper important pour qu'ils puissent se rendre compte vraiment de la réalité du métier, voir si c'est fait pour eux, si c'est pas fait pour eux. Et puis après, on avance comme ça progressivement. Et quand le projet se met bien en place, on peut évidemment passer par une formation, parce qu'on met beaucoup l'accent sur les formations professionnelles en ce moment. La santé fait partie évidemment des secteurs qui recrutent beaucoup. Il y a la restauration, l'hôtellerie-restauration, qui aussi a perdu beaucoup de salariés. Il y a, alors sur Orléans, on a beaucoup de logistique, où il y a vraiment des embauches en permanence. Il y a le bâtiment, il y a beaucoup de secteurs qui recrutent et qui reprennent vraiment leur recrutement maintenant de manière plus intensive.
Des rendez-vous plus longs avec les conseillers, des ateliers de savoir-être pour se réhabituer au monde du travail, mais aussi et surtout des formations que le gouvernement a promis d'intensifier avec son plan annoncé en septembre dédié aux demandeurs d'emploi de longue durée. Les 2 mois suivant son entrée en vigueur, ils sont près de 100 000 à avoir retrouvé un emploi, nous assure le ministère du Travail. Quant à la prime de 1 000 euros pour inciter à se former aux métiers en tension, le dispositif met du temps à s'installer. Sur les 17 000 chômeurs ciblés, pour l'instant, 2 000 ont accepté la proposition. Alors, est-ce suffisant pour s'attaquer au noyau dur du chômage ? Stéphane Carcio est le chef de la division emploi et revenu à l'OCDE.
Ce qui se passe, c'est que les chômeurs de longue durée ne sont pas les premiers sur la liste d'attente pour sortir du chômage. Cette année 2020 et 2021, c'était un gros gel du marché du travail, c'est-à-dire on a priorisé le fait de maintenir les personnes en emploi pour qu'on évite un afflux massif au chômage. Et donc cette logique, pour le coup, a très très bien marché en France, hein, parce que l'économie a démarré, je pense, très rapidement. Mais c'est vrai que du coup, ce gel des flux de rotation n'était pas favorable pour les personnes qui étaient déjà au chômage. Mais compte tenu de la croissance anticipée, compte tenu des plans d'investissement aussi, qui vont créer beaucoup de besoins dans pas mal de secteurs, les secteurs de la transition énergétique, du changement climatique, les nouvelles technologies, il y a toutes les raisons de penser et d'être optimiste sur la baisse du chômage encore en 2022. Et puis, le bon aspect des choses, c'est que maintenant que l'économie redémarre, on voit un très fort taux d'emplois disponibles postés sur les sites de Pôle emploi et les autres sites de recherche d'emploi, avec maintenant des difficultés même de recrutement. Et ça, in fine, ça devrait quand même bénéficier évidemment aux chômeurs, et notamment aux chômeurs de longue durée, une fois que, je dirais, le pool des chômeurs immédiatement disponibles et formés pour les emplois offerts va s'épuiser.
Un optimisme que Laurent, quinquagénaire et sans emploi depuis 2020, a du mal à partager. Parmi les chômeurs de longue durée, 4 sur 10 ont plus de 50 ans, selon l'Observatoire des inégalités. Peu de contact avec sa conseillère Pôle emploi, nous dit Laurent. Il se sent laissé pour compte.
Le premier rendez-vous, en fin de compte, il devait se faire par téléphone. Moi, j'ai demandé à la voir en direct parce que je voulais voir ma conseillère en direct. Donc je l'ai vu. Suite à ça, j'ai voulu rebondir tout de suite. Donc j'ai demandé tout de suite un stage actif projet. Mais avec le Covid, impossible de se déplacer. Donc ça s'est soldé par 3 réunions téléphoniques de 30-45 minutes. Et en fin de compte, on m'envoyait des liens internet à foison. Et c'était à moi de me débrouiller pour trouver du boulot dans ces liens Internet. C'est pas une aide, en fait. Moi, Internet, je l'ai, je peux faire la même chose de chez moi. J'étais responsable technique dans l'automobile, donc quasi chef de projet. Et en fin de compte, je me suis retrouvé licencié lorsque Madame Hidalgo a fermé le parc Autolib dans Paris. C'était il y a 2 ans, en 2020. Autolib s'est arrêté 1 an avant. Et aujourd'hui, avec l'automobile, aujourd'hui, c'est pas terrible. Pendant 1 an, j'ai eu un congé de reclassement, mais qui n'a servi à rien parce que Covid. Après, suivant qu'on soit jeune ou pas, c'est peut-être plus facile. Mais en tout cas, bon, moi, à 50 ans, c'est pas évident. J'ai quand même un CV qui fonctionne, qui arrive à déclencher des entretiens, mais bon, trop cher, ou bah voilà, le constructeur automobile avec lequel on travaille n'a pas donné suite au projet, donc il faut attendre, et en fin de compte, ça démoule pas.
Donc aujourd'hui, quand on vous parle des chiffres du chômage qui ont encore reculé, ouais. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous dites, bah, et nous dans tout ça?
Qu'est-ce qu'ils représentent en fait? On sait pas ce qu'on compte dans les chiffres. Est-ce que c'est des gens qui sont au chômage depuis 1 an, 2 ans? Et il y a aussi il y a des gens qui sont payés 3 fois moins de ce qu'ils étaient avant. Il y a aussi beaucoup d'emplois de précarité, en fait.
Et ça, vous seriez prêt à le faire ou non? Il y a quand même un pas que vous voulez pas franchir.
Je serais prêt à aller dans un atelier pour faire mécanicien, mais mécanicien aujourd'hui, c'est vraiment payé trop bas, quoi. J'étais cadre dans l'automobile, donc voilà, j'avais quand même un bon salaire, 4 500 brut, donc on va dire 3 500 net. Et en fin de compte, moi, je serais prêt, aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, moi, je serais prêt à descendre à 2 500 net.
Voilà. Les demandeurs d'emploi de longue durée, toujours le noyau dur du chômage. C'était le reportage de Marion Ferrer.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Notre invité s'est installé dans le studio 521. C'est le patron de ce qu'on pourrait appeler la NPE des cadres. Bonjour Gilles Gâteau.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Je dis NPE parce qu'en fait vous êtes chargé d'accompagner et de conseiller les cadres qui cherchent un emploi, mais pas de les indemniser, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, ceci dit, nous sommes pas le pôle emploi des cadres, je me permets de le dire, parce que les cadres et les jeunes diplômés que nous accompagnons, la moitié de ces cadres ont un emploi. Donc nous faisons du conseil et de l'accompagnement dans l'évolution professionnelle des cadres, des jeunes diplômés aussi, qui rentrent sur le marché du travail, pas uniquement lorsqu'ils sont demandeurs d'emploi, même si c'est évidemment une part importante de ceux que nous accompagnons.
En France aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de cadres, c'est plus que le nombre d'ouvriers. Et pour eux, Gilles Gâteau, est-ce que la situation, c'est quasiment le plein emploi?
Alors, il y a, on pourrait le dire, un quasi plein emploi parce que le taux de chômage des cadres à 3,7% est très inférieur à ce qu'il est en moyenne et pour d'autres catégories. Cela dit, je mets quand même un point d'attention et votre reportage à l'instant sur le chômage de longue durée, on pourrait penser que ça ne concerne pas les cadres. Pas du tout. Il y a des cadres qui sont au chômage de longue durée, inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an. C'est même le cas de pratiquement 40% des cadres inscrits à Pôle emploi. La moitié sortent en moins de 6 mois, mais 40% sont là encore après 1 an et parfois plus longtemps, notamment des cadres seniors. Mmh. Et là, on a une difficulté très française dans le fait de fermer finalement beaucoup le marché du travail à partir de 55 ans, c'est-à-dire d'un âge où un cadre, il a encore, on va dire, un quart de sa vie professionnelle devant lui.
Alors pourtant, vous dites, nous à l'APEC, on connaît, on a des offres d'emploi, on connaît les pénuries, on a des offres d'emploi non pourvues. C'est un problème massif?
C'est un problème massif, c'est le problème un peu numéro un aujourd'hui auquel on est confronté, ou numéro un ex aequo, je dirais, parce que la particularité de l'APEC en ce moment, c'est qu'on est à la fois dans la réponse à la crise, parce qu'on a des jeunes diplômés pour qui c'est pas encore fini, on va dire, hein, cette crise, qui n'ont pas pu trouver aussi rapidement des jobs dans les promotions qui sont sorties des écoles, des universités en 2020, en 2021. Donc il faut continuer d'accompagner.
Ça veut dire qu'il y a un embouteillage là, un petit peu?
Il y a un effet d'embouteillage, on peut dire ça du côté des jeunes diplômés, même si à long terme on peut être très, très optimiste pour eux, à court terme il y a une vraie difficulté. Et c'est celle de la crise. Et puis il y a ce chômage de longue durée qui s'est un peu enkystée finalement dans cette période de crise et qui, elle, va mettre plus longtemps à se résorber. Et là, ce que fait Pôle emploi, nous faisons aussi un plan qui s'appelle Nouveaux Horizons pour accompagner, en l'occurrence, des cadres au chômage de longue durée. Ça, c'est la crise. Et puis, on est en même temps dans l'après-crise, d'une certaine façon, parce que les entreprises, notamment les TPE-PME, hein, c'est l'essentiel des entreprises clientes de l'APEC, on est vraiment tourné 85% ouais. vers des TPE-PME. Leur principal souci aujourd'hui, c'est de trouver les compétences dont elles ont besoin. Et elles ont des difficultés pour ça.
Mais Gilles Gâteau, vous avez parlé de ces demandeurs d'emploi cadres seniors. 110 000 cadres de plus de 55 ans inscrits à Pôle emploi. Ils ont énormément de mal à sortir du chômage. Ça veut dire que même confrontés aux pénuries dont vous nous dites que c'est un problème massif, les chefs d'entreprise n'ont pas changé de regard ?
Alors, heureusement, il y a des entreprises qui changent de regard et nous faisons tout pour accompagner ce changement de regard. C'est un enjeu à la fois sociétal, évidemment, parce que là, il y a un gaspillage de ressources et quelque chose d'humainement difficile à vivre, évidemment, pour les cadres concernés. Mais c'est aussi un enjeu économique à long terme, parce qu'on voit bien que, à l'heure où on parle de l'allongement de la durée de la vie professionnelle, si on ne règle pas, si on ne change pas effectivement d'attitude, de comportement, de réalité pour inclure davantage les seniors de 55 ans et plus dans l'emploi, dans les entreprises, on aura un hiatus insupportable entre ce discours d'allongement et en même temps une forme d'exclusion des entreprises.
Oui, on peut pas dire on travaille jusqu'à 64, 65 ans si les entreprises n'embauchent pas les seniors.
Voilà, ça vous êtes en train de dire. Et pour les cadres, les 64, 65 ans, c'est déjà une réalité parce qu'en fait, quand vous devez avoir 43 années de cotisation et que vous avez fait des études supérieures dont vous êtes sorti peut-être à 22, 23 ans, de fait, vous devez travailler jusqu'à 64, 65 ans. Donc, ces cadres de plus de 55 ans qui sont là, ils ont, pour une grande partie d'entre eux, bien sûr, il y en a aussi qui sont là, on va dire, dans une forme de transition vers la retraite. Hein. L'étude que
au
nous
chômage,
avons
les cadres
réalisée,
au chômage,
oui. Voilà, il y en a une proportion qu'on a essayé de mesurer justement dans l'enquête pour voir ceux qui avaient une recherche vraiment active et ceux qui avaient une recherche moins active et probablement plus dans une attente de la retraite. Mais c'est à peine le quart des 100 000 dont vous parliez tout à l'heure. La plupart sont dans une recherche actifs d'emploi, ont des compétences, ont des expériences utiles aux entreprises et au marché du travail et ont aussi une urgence financière à travailler. Hein. On a un chiffre qui nous a beaucoup surpris dans cette enquête. 9% des cadres de 55 ans et plus inscrits à Pôle emploi vivent avec le RSA. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai pour des cadres aussi, ce qu'on a entendu tout à l'heure à propos plus généralement du chômage de longue durée, qui doit être une priorité, qui est une priorité pour les acteurs de l'emploi.
Et sur les chiffres, Gilles Gâteau, quand vous dites qu'il y a un problème massif d'offres non pourvues, vous le chiffrez ?
Alors, on a plusieurs indicateurs pour ça. D'abord, et ça c'est une bonne nouvelle évidemment dont il faut se réjouir, nous, notre baromètre du premier trimestre 2022 montre des intentions d'embauche pour le trimestre de la part des entreprises, d'embauche de cadres hein, et d'ingénieurs, qui sont à un niveau supérieur à celui de l'avant-crise.
Et 2019 était déjà un record avec 280 000 recrutements.
2019 était une année record. Aujourd'hui, on est au-dessus des chiffres de 2019. C'est pour ça qu'on est assez confiant sur le fait que 2022 soit une année record pour les embauches cadres. Si, et je mets ce conditionnel, si précisément nous arrivons à surmonter des difficultés de recrutement qui peuvent faire obstacle finalement à ces embauches, faute d'avoir trouvé des candidats et d'avoir trouvé et d'avoir réalisé les embauches.
Est-ce que c'est un problème, c'est pénurie, est-ce que c'est un problème de formation ? En gros, on ne forme pas les cadres que vous avez, vous, qui cherchent du boulot, qui veulent s'orienter vers une autre entreprise, n'ont pas la bonne formation. Est-ce que c'est le problème de regard des entreprises ? On voit qu'elles ne considèrent pas, par exemple, les plus de 55 ans. Ou bien de regard des entreprises qui cherchent le mouton à cinq pattes, quoi ?
Un peu tout à la fois. On est typiquement devant un phénomène multifactoriel. Hein. Il y a beaucoup d'explications. Il peut y avoir un sujet effectivement de ce qu'on appelle des profils pénuriques, c'est-à-dire là on cherche des compétences techniques pointues qui doivent être formées. Vous cherchez un ingénieur en géothermique, ça ne s'improvise pas et ça ne se forme pas en un instant. Mais vous avez aussi cette tendance qu'ont beaucoup d'entreprises, de recruteurs et qu'on essaye nous de faire aussi évoluer en les accompagnant, de chercher, vous l'avez dit, le mouton à cinq pattes, c'est-à-dire d'avoir un ensemble d'exigences. Et alors, on a fait une étude sur ces difficultés de recrutement et on a interrogé les entreprises qui avaient l'intention de recruter au dernier trimestre de l'année dernière. On les a interrogées en ce début d'année. 25% de ces entreprises, une sur quatre, a renoncé à au moins un recrutement faute d'avoir trouvé le candidat qu'elle recherchait.
Donc voilà le problème massif. Gilles Gâteau, j'ai une question quand même. Est-ce que on a cette révolution sur le marché du travail? Est-ce que pour les cadres, le télétravail devient une exigence des postulants, de ceux qui de l'offre de travail?
Alors absolument, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, les cadres de production, par exemple, sont évidemment moins concernés, mais il y a beaucoup d'emplois cadres qui peuvent être très télétravaillables et qui l'ont été dans cette période. Et c'est une bonne illustration du décalage qui peut s'installer finalement entre les aspirations des cadres et puis les attentes ou la vision qu'ont les entreprises ou la conscience qu'elles ont.
Vous avez des
de ce
chiffres.
Sont ces aspirations. Ouais. Et par exemple, sur le télétravail, on a 47% des cadres qui nous disent « Oui, ce sera un critère dans le choix de mon prochain job. » Donc, s'il bouge...
1 sur 2, quasiment.
Ce sera 1 sur 2, ce sera un critère de choix. Et on n'a que 22% des entreprises qui pensent que l'offre de télétravail qu'elles peuvent faire a une influence sur le fait qu'elle soit attractive ou pas. Donc, il y a un décalage encore entre le sentiment, la perception des entreprises et celle des cadres, des candidats.
Et le salaire, on en parlait dans le débat. Est-ce que le rapport de force, vu ces problèmes d'offres non pourvues, est en train de vraiment tourner en faveur des salariés, des cadres? Est-ce que dans vos offres d'emploi, vous voyez les augmentations de salaire ou dans les prétentions des postulants?
Alors oui, très nettement, et là on a un phénomène typique de marché, on va dire. Il y a une tension et qui se résout pour partie par le salaire. Dans cette même enquête, on a interrogé les entreprises qui avaient réussi à recruter. Une sur deux dit qu'elle a consenti un salaire supérieur à ce qu'elle avait l'intention d'offrir au démarrage. Donc pour réussir le recrutement, il a fallu adapter le salaire. De même, côté cadre, quand on les interroge sur les offres qu'elles ont refusées, la première cause de refus, c'est effectivement le salaire était insuffisant, à peu près 40%. Mais, je voudrais insister là-dessus, quand on dit 40% ont refusé une offre parce que le salaire n'était pas intéressant, ça veut dire que 60% l'ont refusé pour une autre raison. Et là, il y a quelque chose que nous observons à l'APEC, que nos consultants, tous les jours, quand ils rencontrent les cadres, observent, c'est qu'il y a des aspirations qui évoluent et que le salaire n'est plus forcément aujourd'hui, notamment pour les jeunes, le seul moteur d'une carrière ou le seul moteur d'un choix professionnel.
D'un mot, ça serait quoi l'autre aspiration?
Alors on a l'intérêt du travail, on a le sens, on a les valeurs de l'entreprise, on a la qualité de vie au travail. Donc on a des aspirations qui ne sont plus seulement aujourd'hui pour un cadre d'avoir un bon salaire.
Le portrait du marché du travail des cadres qui est vraiment en train de bouger. Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, merci d'avoir été l'invité d'On n'arrête pas l'écho.
Merci de votre invitation.
Sandrine Foulon, Augustin vous a écrit, alors Augustin il a attrapé le Covid, après une semaine de confinement chez lui, son chef lui impose de porter au travail un masque FFP2 pendant encore une semaine, son chef lui a aussi interdit l'accès à la cantine. L'employeur a-t-il le droit d'aller au-delà de ce que recommandent les autorités?
Non, alors c'est très clair Augustin, ce que fait votre employeur est tout à fait illégal. C'est ce que confirme l'avocat Camille Pradel du cabinet éponyme qui conseille les entreprises en matière de santé au travail. toute mesure qui relève de ce domaine doit uniquement dépendre d'une prescription médicale, de la décision du médecin du travail, mais en aucun cas de l'employeur. La jurisprudence est limpide. Camille Pradel rappelle l'exemple de ce greffier écarté de son poste parce qu'il souffrait d'épilepsie. Sa hiérarchie trouvait ça dangereux. La Cour de cassation a donné raison à l'employé. Encore une fois, ce n'est pas à l'entreprise de se substituer au corps médical. Que ce soit pour le port du masque ou pour l'accès à la cantine, cette décision est discriminatoire et pourrait assez facilement être assimilée à du harcèlement moral. Que votre employeur veuille prendre des précautions face au Covid et qu'il se perde dans les méandres des protocoles sanitaires changeants, on peut le comprendre, mais il n'a pas à vous cibler vous personnellement. D'autant que vous n'êtes pas tout seul aujourd'hui, Augustin, à être rattrapé par la patrouille Omicron.
Et d'ailleurs, Sandrine, on continue avec Mireille. Elle est intervenante dans l'enseignement supérieur privé. Cela fait plusieurs fois que Mireille est cas contact de collègues et d'étudiants testés positifs. Pour rassurer son employeur, elle a multiplié les autotests, mais ça lui revient cher. Hein. L'entreprise peut-elle faire un geste? C'est la question de Mireille.
Alors, normalement, Mireille, dès lors que vous êtes cas contact, vous devez faire un test PCR ou antigénique, avec les résultats qui doivent être négatifs, une attestation sur l'honneur téléchargeable sur le site amélie.fr et un schéma vaccinal complet. Vous pouvez vous rendre dans une pharmacie et demander deux autotests qui vous seront délivrés gratuitement. Une carte des officines qui ont adhéré à ce programme est également disponible sur le site de l'assurance maladie. Mais les employeurs, eux, ne sont pas tenus de vous les fournir. Mireille, l'avocat Camille Pradel, déconseille même à ses clients cette prise en charge dans un contexte de réglementation mouvante et de forte contamination. C'est vrai que les chiffres se sont emballés. Les tests auraient déjà coûté en janvier plus d'1,5 milliard d'euros. Omicron a avalé en 2 mois la totalité du budget test prévu pour toute l'année 2022. Mais pour l'instant, c'est toujours la Sécu qui absorbe la facture.
Sandrine Foulon, les coulisses du monde du travail, ma vie au boulot. Vous pouvez lui envoyer vos questions en passant par la page de l'émission sur le site franceinter.fr.